On va commencer cet après-midi avec la conférence de Jules Falquet. Donc, je suis ravie d'avoir entendu Daniel Juteau ce matin sur les questions qui ont fait beaucoup de débats et des discussions très riches au sein de RT24, de l'Association française de sociologie. Et nous allons continuer les discussions, les débats et commentaires avec Jules Falquet, qui est maîtresse de conférences à l'Université Paris Diderot. Et elle est aussi au laboratoire, elle est au CDRF et au laboratoire LCSP. Donc, Jules a travaillé énormément, surtout moi qui viens de l'Amérique latine, les premiers travaux que j'ai lus sur le féminisme matérialiste étaient aussi en grande partie des traductions. Et Jules a participé énormément à faire la diffusion de ses travaux dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Et aujourd'hui, donc, elle va nous présenter une continuation avec Guillaumin, penser la complexité historique des groupes appropriés et appropriateurs. Donc, je laisse à Jules et après, on aura, j'espère, des débats avec la salle aussi intéressants que ce matin. Donc, je laisse la parole à Jules.
Merci. Merci à Témissa, je ne sais pas si...
Du coup, oui, non, ouais. Alors, je voudrais remercier notre RT, le RT24, d'avoir organisé tout ça, plus particulièrement Aude et Claire, et aussi remercier Daniel, et puis aussi remercier toutes celles et ceux qui sont là cet après-midi et qui étaient aussi là ce matin. Et puis, quand même, je voudrais dire que je suis émue parce que c'est une journée qui est quand même... Enfin, on est là grâce à Colette Guillaumin, certes, mais aussi, malheureusement aussi du fait de sa disparition. Donc quand même, c'est un petit peu triste. Et aussi, sa disparition est celle d'autres grandes inspiratrices du matérialisme francophone à qui elle était très liée, avec qui elle réfléchissait, et qui sont aussi très importantes pour certaines d'entre nous, et peut-être certains d'entre nous aussi, c'est-à-dire Nicole-Claude Mathieu et Daniel Charek, également disparues toutes les deux, auxquelles je voudrais aussi... pour lesquelles je voudrais avoir une petite pensée, et vraiment, d'autant plus que... vraiment, elles ont toujours énormément insisté, toutes, hein, sur le fait que c'est une pensée collective qu'elles ont développée ensemble et puis qu'elles ont développée aussi dans le cadre d'un mouvement plus large et d'un mouvement de lutte. Et je crois que c'est très important de se rappeler de ça, quoi. Et bien sûr, dans un contexte. Mais c'est des idées qui sont liées à une volonté de transformation sociale radicale. Voilà. Et puis, pour me situer aussi, même si c'est rapide et si beaucoup m'ont déjà entendu 12 000 fois me situer, mais c'est pas grave, dire d'une part que, bah, d'un point de vue sociologique, je suis définie comme femme, comme blanche et de classe privilégiée, que d'un point de vue politique, j'essaye de participer aux luttes antiracistes, anticapitalistes, en tant que lesbienne, c'est-à-dire pas en tant que femme, mais pas en tant qu'homme non plus, donc lesbienne dans un sens politique. Et puis, comme tu l'as un petit peu dit, Artemisa, c'est vrai que beaucoup ce qui nourrit ma réflexion, c'est des choses que j'ai apprises ou découvertes ou connues, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais en Amérique latine et dans les Caraïbes, avec en particulier les féministes et les lesbiennes latino-américaines et caribéennes, et en particulier les féministes et les lesbiennes racisées, antiracistes et anticapitalistes, et tout particulièrement les autonomes. Mais voilà, j'arrête là-dessus. Et aussi dire que ça fait un bon moment... Ce à quoi tu faisais référence, c'est en 2005, on avait publié avec Ochi Curiel, qui est donc une féministe lesbienne afro-dominicaine, on avait publié une première traduction, vraiment très artisanale, avec les moyens du bord et tout, mais qui est toujours disponible, hein, online, de un article de Colette Guillaumin, un de Nicole-Claude Mathieu et un de Paola Tabet. Et on les avait appelés, pour la commodité de notre expression, féministe matérialiste francophone. C'est pas forcément la meilleure manière de les qualifier, mais c'était pour les différencier. On a dit francophone parce que Tabet, bien sûr, elle est pas française, mais c'était pour les différencier en particulier justement des marxistes anglophones, c'est-à-dire matérialiste, à différence de marxiste, et marxiste surtout celle qui était dans le débat auquel on faisait référence, et les marxistes anglophones, donc ce que tu as rappelé ce matin, Daniel, sur Barrett et McIntosh, et de manière générale, peut-être je comprends mal, mais moi je comprends que c'était des marxistes trotskistes, ce qui a introduit une particularité supplémentaire dans le débat. Et aussi pour les différencier en quelque sorte de, et alors vraiment je dois énormément à Daniel et Nicole Laurin, à leur article de 88 des religieuses aux mères porteuses, puisque si vous ne l'avez pas lu franchement et que vous voulez une clarification générale, précipitez-vous, puisqu'elles expliquent très clairement la différence entre, enfin, elles analysent la différence entre plusieurs courants de marxistes féministes, de féministes marxistes, de Colette Guillaumin, pas versus, mais différente de Delphi. Enfin, c'est vraiment très, très éclairant. Voilà. Et elle souligne vraiment, c'est elle qui souligne tout particulièrement, donc Daniel et Nicole Laurin, la spécificité de la thèse, ce qu'elles appellent à ce moment-là la thèse de l'appropriation défendue par Guillaumin. Et justement, en insistant beaucoup que, à différence du mode de production domestique, c'est quelque chose, il y a une dimension dans l'appropriation collective qui permet d'aller plus loin que le foyer. Il y aurait plein de trucs à dire, mais je ne vais pas développer pour l'instant. En tout cas, voilà. Et moi-même, je me suis donc beaucoup appuyée là-dessus. Depuis un moment, j'avais écrit un article qui s'appelle « La règle du jeu » en 2009. Après, je suis beaucoup revenue dans mon habilitation à diriger des recherches, que bien sûr je n'ai pas publié, mais enfin, sur d'un côté Kerguat, de l'autre côté Guillaumin, essayer de les faire travailler ensemble. Et puis sinon, peut-être, qui peuvent vous intéresser et auxquels je ferai référence implicitement, j'ai un article sur les vases communicants, justement, les liens entre une tentative de comprendre les liens entre l'appropriation de race, l'appropriation de sexe et l'exploitation de classe. Un autre sur ce que j'appelle, en m'appuyant sur Tabet, le désamalgamage conjugal. Et ça fait référence aussi à des choses dont on a parlé un petit peu ce matin. Et puis un autre texte qui s'appelle la combinatoire straight, parce qu'en fait, dans tout ça, contribuer à la compréhension, je pense qu'il faut aussi, enfin, c'est intéressant aussi d'avoir Wittig et son analyse de l'hétérosexualité comme régime politique présent à l'esprit. Alors, ce que je vais essayer de faire là, cet après-midi, c'est, avec Guillaumin et les autres, essayer de penser la complexité historique, et je l'ai appelé des groupes appropriés et appropriateurs. Peut-être que ma langue fourchera, ou c'est pas vraiment fourché, mais je pense quand même en termes de classe des femmes. Mais ayant récemment lu le travail de thèse de Salia Boussedra, qui est une marxiste consommée, elle explique très clairement, et je n'ai pas encore réussi à trouver la contre-argumentation, que peut-être c'est pas exactement le bon terme classe des femmes, en tout cas d'un point de vue marxiste. Donc je ne sais pas si c'est exactement celui qu'il faut utiliser. Donc prudemment, je dirais groupe, mais ce n'est pas les catégories en tout cas. Salia Boussedra, que je vous recommande sur la... C'est une analyse de la notion de lumpenprolétariat chez Marx et des rapports entre femmes et hommes. Donc voilà. Là, ce que je voudrais essayer de dire, ou ce à quoi je voudrais essayer de réfléchir, donc cette complexité historique des groupes appropriés et des groupes appropriateurs... ce que je voudrais, bon, évidemment, rappeler, mais la rigueur, la richesse, la précision de la pensée de Guillaumin, et aussi notamment de Mathieu, qui est assez utile, je pense, pour éclairer ce que je voudrais dire. Je voudrais réfléchir à quatre dimensions. Excusez-moi si j'arrive pas à m'exprimer clairement, mais je voudrais réfléchir aux groupes appropriés et appropriateurs sur le plan, en quelque sorte, matériel, dans le sens qu'a dit ce matin Daniel, c'est-à-dire en tant que formé par un rapport social, pas comme un regroupement d'individus, et encore moins pas comme quelque chose de préexistant, mais vraiment comme des groupes qui sont dialectiquement créés par un rapport social. Et comment, d'une autre manière, ce serait peut-être une ce serait peut-être ce que nous, on peut, d'un point de vue simpliste, regarder comme des catégories sociologiques. Enfin, ce sera plus clair quand je développerai. Donc ça, c'est un premier niveau de comment essayer de réfléchir à ces groupes appropriés et appropriateurs. Par ailleurs, ces groupes sont en transformation permanente, ils ne sont pas statiques. Ils ne sont pas figés, ils sont historiques, donc je voudrais essayer de les penser aussi dans leur historicité. Et cette historicité, elle fait signe en quelque sorte vers la dimension de l'imbrication des rapports ou bien de l'intersectionnalité. En tout cas, je pense que cette historicité, c'est comme ça qu'elle doit être comprise et c'est comme ça que Guillaumin notamment nous permet de la comprendre. Et puis, troisième dimension, je pense que c'est complètement différent d'essayer de comprendre ce que sont des groupes appropriés et des groupes appropriateurs. Ils ne fonctionnent pas selon la même logique. Ils ne sont pas symétriques. Ils ne possèdent pas les mêmes ressources pour s'instituer en tant que tels, pour se penser, pour se nommer, ou pour être hétérodésigné. Enfin voilà, on pourra dire plein de choses à ce sujet. Et ça m'amène au dernier élément qui rejoint un petit peu le précédent, c'est-à-dire... comme dans les termes de Guillaumin, c'est la face mentale du groupe, ou dit dans des termes marxistes, ce serait il y aurait d'un côté une classe en elle et une classe pour elle-même. Donc en tout cas, penser le groupe appropriateur ou le groupe approprié depuis la conscience que les personnes, mais surtout que les groupes possèdent ou ne possèdent pas ou élaborent ou pour laquelle ces groupes luttent, et qu'ils arrivent progressivement ou non à forger. Est-ce que c'est à peu près clair, hein, tout ce que j'ai... Alors, voilà, ça c'est les quatre axes transversaux, et je voudrais présenter donc quelques réflexions sur d'abord l'appropriation de sexe, les appropriés, puis les appropriateurs, et puis sur l'appropriation de classe, les appropriateurs et puis les appropriés. Donc j'inverserai. Et je les sépare parce que, en effet, comme l'a dit ou l'a écrit une fois Christine Delphi, je pense, c'est utile de penser analytiquement d'abord les rapports séparément, mais bien entendu qu'en fait ces rapports sociaux sont étroitement liés, que ce soit par l'imbrication, par l'intersection, par la coformation. Je ne veux pas décider maintenant, mais en tout cas, voilà. Donc là, je les sépare en partie pour le raisonnement, mais en même temps, je voudrais montrer à quel point ils sont liés entre eux. Donc, l'appropriation de sexe. Et si on commence par les appropriés, EES, ou ES, en tout cas, le groupe qu'on appelle femmes, mais qui ne sont pas nécessairement les femelles. Pas nécessairement. Ça recoupe peut-être, mais ça recoupe peut-être pas. Et puis, on ne peut pas non plus nécessairement séparer, c'est-à-dire même la biologie la plus biologiciste ne nous permet pas nécessairement de faire deux groupes, un groupe qui serait les femelles, qu'on pourrait clairement distinguer d'un groupe qui serait les mâles. Donc vraiment, je fais référence au groupe des femmes ou bien à la classe des femmes. Donc vous savez, tout le monde sait ici, je pense que... le rapport qu'il écrit dans l'esprit, en tout cas, de Guillaumin, et dans le mien aussi, c'est un rapport d'appropriation, d'appropriation en tant que corps, machine à force de travail, qui est un concept, me semble-t-il, vraiment très important, et en effet, une appropriation physique directe que Guillaumin appelle le sexage. Donc, la classe des femmes, ce ne sont pas du tout, bien entendu, des femelles, il n'y a rien de tel, ce sont des personnes et un groupe qui est approprié. Hein, qui fait l'objet de cette appropriation physique directe. Donc, définie comme ça, cette définition est complètement compatible avec une très grande diversité en termes, par exemple, sociologiques. Ça, c'est absolument pas contradictoire avec le fait qu'il y a toutes sortes de gens dans cette classe des femmes. Les membres de la classe ou du groupe des femmes, comme on voudra donc l'appeler, se ressemblent sous le rapport, ou ont des points communs sous le rapport du sexage, mais pas sous les autres rapports. Personne n'a jamais dit que c'était un groupe homogène, ni en tout cas, pardon, Guillaumin n'a jamais pensé voilà, qu'il s'agissait d'un groupe homogène, et excusez-moi de ce parallèle un peu bidon, mais par exemple, toutes les tables ont des propriétés communes en tant que tables. Il y a des tables qui ont 4 pieds, il y a des tables qui ont 1 pied, il y a des tables qui sont dessinées, il y a des tables réelles, il y a toutes sortes. Mais sous l'angle de la table, elles ont un point commun. Mais après, sous tous les autres angles, elles ont énormément de différences. Là, c'est pour réfléchir en termes de catégories purement intellectuelles. Mais les rapports sociaux de sexe et les rapports sociaux en général, c'est pas uniquement des catégories, puisque justement le rapport social c'est un rapport de pouvoir. Il y a des enjeux entre les tables, il n'y a pas d'enjeux, mais par contre dans les rapports de sexage ou dans les rapports de race, il y a des enjeux. Mais en tous les cas, et sans faire d'analogie mais en faisant un parallèle, on sait très bien aussi que dans la classe prolétaire, il y a toutes sortes de gens. Et c'est pas parce qu'il y a toutes sortes de gens que le prolétariat n'existe pas au regard des rapports de classe. Et je relisais des trucs sur les auteurs, autrices brésiliennes. Elisabeth Souza Lobo, par exemple, qui est une des célèbres féministes brésiliennes qui s'inscrit dans une perspective en quelque sorte marxiste, mais surtout féministe, quand elle écrit « La classe ouvrière a deux sexes », elle dit ça, c'est-à-dire elle dit pas la classe ouvrière n'existe pas parce qu'il y a des femmes dedans ou parce qu'il n'y a pas que des hommes dedans. Elle dit la classe ouvrière, elle existe, certes, mais elle a deux sexes. C'est le titre d'un de ses livres les plus célèbres. Donc, premier élément, la classe de sexe appropriée, elle est définie par un rapport social, le rapport de sexage. Après, on peut se demander... Ce rapport, il n'est pas statique, il n'est pas stable. Donc, on peut réfléchir aux transformations, aux évolutions, aux involutions, peu importe, de ce groupe ou cette classe de sexe. Et je pense que c'est très important de voir que Colette Guillaumin elle-même, elle le dit tout de suite dans son premier chapitre de Pratique du pouvoir. Elle dit il y a deux formes d'appropriation, l'appropriation privée et l'appropriation collective. Et elle dit immédiatement il y a une contradiction dynamique entre ces deux formes d'appropriation. Et cette contradiction dynamique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un moteur de changement perpétuel. Après, bon, vous avez fait une interprétation différente et très intéressante avec Nicole Laurin sur ce « y a-t-il contradiction ou non, jusqu'à quel point ?» Mais en tout cas, elle, dès le début, elle réfléchit dans une perspective historique. Et elle dit aussi « il y a une contradiction entre l'appropriation en général, et la libre vente de la force de travail, que moi j'interprète comme il y a une contradiction entre les rapports d'appropriation et les rapports salariaux ou rapports de classe. C'est ce que j'essaye de développer dans le texte qui s'appelle « Les vases communicants ». Bon, en tout cas, moi je l'appelle comme ça, où j'essaye de réfléchir à, d'un côté, la logique des rapports d'appropriation de sexe et de ceux de race, et puis... troisième pied du triangle, du trépied, les rapports de classe. En tout cas, c'est présent dès le premier chapitre du livre de Guillaumin sur le sexage. Donc vraiment, la classe de sexe appropriée, c'est-à-dire la classe des femmes, elle n'est pas statique et bien sûr, donc, elle est encore moins naturelle et elle n'est pas essentialisée. Je pense que vraiment, ce que tu disais aussi ce matin, Daniel, sur le reproche qui est fait au féminisme matérialiste, qu'il essentialise ou qu'il homogénise, je crois que vraiment, c'est parce que c'est des gens qui ont lu rapidement, mais c'est pas possible de faire ça si Guillaumin s'est exprimé comme ça. Et donc, tu l'as déjà vraiment beaucoup développé, mais votre article « Des religieuses aux mères porteuses », c'est vraiment 10 ans après, plus ou moins, ce premier travail de Guillaumin. Vous essayez de faire travailler cette idée des contradictions entre l'appropriation collective et l'appropriation privée dans le Québec des années 80. Et en plus, vous le situez dans un commencement de transformation néolibérale du Québec. Donc je crois que ça se vraiment Guillaumin se prête complètement à ça et vous en faites une analyse extrêmement intéressante. Par ailleurs, Colette Guillaumin, elle pense aussi l'existence de la race et de la classe parmi les femmes. C'est très clair dans l'autre texte que tu as mentionné de 80, alors il y a plusieurs datations hein, mais le texte qui fait suite à la discussion de la journée de la nef sur sexisme et racisme, sexisme, racisme et antisémitisme, c'est vraiment très très clair. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais Guillaumin, dès les années 90, elle pense l'articulation très clairement du sexe et de la race, vraiment très très clairement. Et elle dit qu'il faut étudier les relations des femmes entre elles. C'est ça la fin de son article que tu n'as pas cité, mais je crois que c'est vraiment tout à fait parlant. Et il y a une autre personne qui aussi l'a dit de manière très claire et très précoce, c'est Nicole Claude-Mathieu. Quand elle écrit « Femme du soi, femme de l'autre » en 87, quand elle le publie en 87, ça parle aussi de ça. C'est-à-dire, elle montre bien, elle sait très bien que toutes les femmes ne sont pas de la même race, entre guillemets. Voilà. Je les ai mises, les guillemets. Ouais, elle sait très bien. En tout cas, il y a une réflexion déjà depuis un bon moment là-dessus. C'est pas la pensée de l'imbrication ou la pensée de l'intersectionnalité, mais cette réflexion, elle existe et elle est indéniable. Alors, maintenant... le groupe ou la classe des femmes, c'est-à-dire des appropriées de sexe, c'est important justement de la penser comme la partie appropriée du rapport social. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas du tout théoriser et comprendre de la même manière la partie appropriée que la partie appropriatrice. Et aussi, et Mathieu notamment l'a vraiment beaucoup travaillé, les membres de cette classe appropriée ou de ce groupe approprié ne peuvent pas se penser elles-mêmes aussi bien individuellement que collectivement de la même manière que se pensent individuellement et collectivement les membres du groupe appropriateur. Parce que ces personnes n'ont pas les mêmes ressources institutionnelles ou les mêmes ressources structurelles pour se penser en tant que groupe ou individuellement. Et l'exemple typique, c'est l'article de Mathieu sur la conscience des dominés. C'est vraiment, en fait, elle parle de ça, en disant, par exemple, entre elle et la conscience, une médiation, les hommes, enfin, je passe tous les détails, mais elle dit aussi, par exemple, comment on peut se penser soi-même si on est tout le temps épuisé, affamé, on n'a pas accès à l'éducation, on n'a pas accès à la langue dominante, on a, enfin, ceci, cela, peu importe. Voilà, la conscience des dominés ne peut absolument pas être traitée de manière symétrique, ni la conscience individuelle, ni la conscience collective. C'est aussi ce que dit Guillaumin quand elle parle des effets théoriques de la colère des opprimés. Justement, c'est un article d'épistémologie super intéressant dans lequel elle montre bien que, bah oui, les opprimés, ils font pas du tout la même théorie, par exemple, sur eux-mêmes ou sur elles-mêmes que les oppresseurs. Alors là, elle l'a mis en termes d'opprimés, mais on comprend bien que c'est approprié. Si je peux dire ça. Et d'autant plus que quand on est membre du groupe approprié, on fait l'objet d'une naturalisation, en tout cas dans la réflexion de Guillaumin, d'une naturalisation tellement forte que c'est particulièrement difficile de se penser individuellement et collectivement. On affronte le poids de l'idéologie dominante des appropriateurs. Donc ça, c'est le quatrième point, le quatrième axe pour penser le groupe approprié de sexe. C'est ce que Guillaumin appelle la face mentale. C'est très important, ou on pourrait le dire en d'autres termes, la classe appropriée pour elle-même. Est-ce qu'elle arrive ou non à développer une conscience ? Et là, je sais plus, je crois qu'elle est partie, Simona, mais là, je la rejoindrai avec une lecture peut-être moins profonde que la sienne de Gramsci, mais je pense que c'est vraiment tout à fait significatif, c'est-à-dire comment est-ce que le groupe, en tout cas Gramsci s'est posé la question pour la classe, comment est-ce que le groupe approprié, donc pas exploité, mais approprié ici, arrive à travers ses intellectuels à définir une vision autonome par rapport à la vision dominante et une vision homogène. Ça n'a rien d'évident. Et d'ailleurs, on peut se demander après si c'est souhaitable, mais ça, c'est une autre question. Mais ça n'a rien d'évident. Et alors là, je reviens à notamment le texte de Mathieu, « Trois modes de conceptualisation des rapports entre sexe, genre et sexualité ». C'est une illustration de ça. C'est-à-dire, on voit bien que tout le monde ne pense pas pareil la façon dont, justement, le sexe et le genre se relient, par exemple. Hein. C'est ce qu'on voit très bien aussi dans les textes de Monique Wittig, quand elle différencie quand elle périodise le mouvement féministe, elle dit la première vague, elles étaient naturalistes, la deuxième vague, il y a des naturalistes, elle dit pas, elle nomme pas Psyché-Po, mais on comprend, si on connaît le sous-titre, on comprend que c'est d'elle qu'elle parle, elle dit, il y a des femmes qui défendent les femmes, et puis il y a des femmes, il y a des féministes, entre guillemets, qui défendent les femmes, et la féminitude, et tout ce que vous voulez, et puis il y a des féministes qui luttent pour l'abolition des rapports de sexage. C'est pas du tout le même type de conscience de soi comme groupe qui est défendu. Et donc, c'est pas du tout la même perspective politique. Quand on dit conscience, on fait aussi appel à cette réflexion en termes de perspective politique. Et d'ailleurs, au sein de questions féministes, il y a eu une lutte politique. Et par exemple, Christine Delphi est partie d'un côté, et Colette Guillaumin et Mathieu et tous sont partis d'un autre côté, même à l'intérieur d'une réflexion qui était assez proche. Donc ça montre à quel point il n'y a pas une conscience unique de soi comme groupe approprié, et il y a une lutte idéologique et politique extrêmement forte. Et là, je reviens très rapidement sur le texte de Colette Guillaumin de 97-89, qui vient d'être publié. Hein. On le voit très très bien quand elle dit, tu en as déjà parlé ce matin, mais je reviens un petit peu dessus, elle dit, il y a trois conceptions. Donc, Guillaumin, dans ce texte, dit, il y a trois conceptions du féminisme. Il y a le féminisme corporatiste, on défend les femmes en tant que femmes. Il y a le féminisme syndical, on les défend en tant que femmes en espérant une petite amélioration. Et puis, il y a le féminisme politique. Et là, elle met comme victime, par exemple, les lesbiennes. Et ce serait le mode 3 de Nicole Claude Mathieu, pour les gens qui connaissent par cœur tous les machins, ce serait le mode 3 de la conceptualisation des rapports entre sexe, genre et sexualité. C'est-à-dire, encore une fois, on revient, et le mode corporatiste, c'est une manière naturaliste de se penser. Quand Delphi dit... C'est pas très sympa de m'avoir dit ça, mais quand Delphi dit le féminisme doit défendre toutes les femmes parce que c'est des femmes, eh ben, elle est dans un féminisme corporatiste. Je dis ça, je me permets de dire ça parce que je pense que le texte de Guillaumin II et la discussion de la nef de 98, en fait, précèdent de peu les discussions sur le racisme qui vont devenir le débat sur le voile et ainsi de suite. Donc, en fait, ça. Voilà, ça a un très fond, comme ça qu'on dit, un très fond politique. Voilà. Et Guillaumin termine ce texte en disant quelque chose qui se rapproche de ce que dit Patricia Hill Collins sur l'épistémologie féministe noire, parce qu'elle, elle dit, Guillaumin dit, on n'est pas, on peut pas dire en tant que femme et après séparément en tant que, par exemple, je sais pas moi, racisée ou Guillaumin dit, on est tout le temps en même temps, on est un sujet unique. Ça, c'est ce qu'elle dit. Et Hill Collins, quand elle parle de l'épistémologie féministe noire, dit des choses très intéressantes sur, elle dit pas exactement la même chose, mais ça fait partie, je pense, de la même inquiétude autour de l'épistémologie féministe noire rassemble des choses du féminisme et de l'afrocentrisme, par exemple. Mais c'est plus que l'addition de choses séparées. Je le dis pas très bien, mais je vous renvoie à son texte qui est très intéressant et que vous connaissez déjà certainement. Alors maintenant, parlons des appropriateurs de sexe pour changer. Les appropriateurs de sexe, ce serait, par exemple, ce que Anne-Marie Devreux, elle l'a mis dans le terme de les hommes comme dominants. Ou bien Léo Thiers Vidal, il a bien montré que les hommes, la classe de sexe des hommes, a parfaitement conscience d'être dominant. Et c'est sûr que les hommes sont, enfin la classe appropriatrice de sexe n'est pas beaucoup étudiée et analysée. Et d'un côté, le développement des études de la masculinité, ça pourrait, ou des masculinités, ça pourrait être un bon signe, mais en même temps, je ne suis pas sûre que justement ce soit un si bon signe que ça, parce qu'il me semble que la réflexion, par exemple, de Connell hein, sur les masculinités non hégémoniques, quelque part, c'est intéressant, bien sûr, mais quelque part, c'est peut-être une fausse direction parce que ça peut donner l'impression que les masculinités non hégémoniques, du coup, sont dominées et ne, en quelque sorte, sortent des appropriateurs, du groupe des appropriateurs. Or, je n'en suis pas du tout certaine. Par exemple, je ne suis pas du tout certaine que les gays, et c'est ce que dit Wittig, hein, elle dit de manière générale, les hommes, et donc je pense que les gays sont inclus là-dedans, en général, ils ont toujours au moins deux femmes qui s'occupent d'eux, qui prennent soin d'eux, etc., toute leur vie. Enfin non, là, ils n'en ont pas deux, ils en ont une au moins, mais enfin leur mère. Je sais que tous les gays n'ont pas de mère, tout le monde n'a pas de mère, etc., mais bon, vous comprenez quand même l'idée générale. En tous les cas, les membres du groupe appropriateur retirent des bénéfices de l'appropriation collective. C'est pas parce qu'éventuellement ils sortent, par exemple, de l'appropriation privée qu'ils n'exercent pas, qu'ils ne font pas partie. Et je viendrai tout à l'heure à la race, hein, mais bien sûr que l'ensemble du groupe appropriateur de race, même si individuellement chacun n'est pas raciste ou chacune n'est pas raciste, etc., hein, retire quand même des bénéfices. Bon, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc même les membres racisés ou prolétaires de la classe des appropriétaires de sexe font partie de cette classe et retirent, je me répète, hein, des bénéfices, même si c'est pas les mêmes, c'est pas autant, tout ce qu'on veut. Voilà, je disais, et c'était pas anodin, hein, certains hommes, même sans être, enfin. J'enlève l'exemple des gays, mais si on prend la situation de l'esclavage, ben l'esclavage, typiquement, c'est une situation dans laquelle on n'a pas forcément de mère, hein, puisque l'esclavage de plantation coloniale, etc., a tendance à séparer les familles. On n'a pas forcément d'épouse, mais n'empêche qu'on fait quand même partie, en tout cas, ça mérite discussion, mais je pense qu'on fait quand même partie de la classe des appropriateurs de sexe. Et comme dirait Tabet, même l'homme le plus misérable du monde, etc., c'est la grande arnaque, il peut se payer une prostituée. Homme au sens non biologique et prostituée de tous les sexes possibles, de toutes les races possibles, mais en tout cas qui se trouve en position de travail du sexe. Et voilà, et donc bien sûr qu'il y a des hommes qui subissent des violences sexuelles, par exemple, des racisés, des jeunes racisés, mais... Souvent, par exemple, ces mêmes membres de la classe appropriatrice de sexe, tout en subissant des violences sexuelles, peuvent en exercer aussi. Et d'ailleurs, je pense que ça permet de comprendre pourquoi, ensuite ou en même temps, je pense que ça permet de comprendre pourquoi on dit souvent que les hommes violents sont des hommes qui ont été violentés quand ils étaient petits. Et par contre, on se demande pas pourquoi toutes les femmes violentées quand elles étaient petites ne deviennent pas des femmes, des épouses violentes. Enfin, vous comprenez, je pense, ce que je veux dire par là. Et il y a certes des hommes qui sont dans des fonctions de serviteurs, mais ça n'empêche que souvent, ils sont après, le soir, servis, entre guillemets, chez eux. Si toutefois, ils ont un chez eux, mais en général, ils en ont un. Donc voilà, l'imbrication, en d'autres termes, n'empêche pas qu'il existe une classe d'appropriateurs de sexe. Alors, si on pense à la transformation ou les transformations de la classe des hommes ou du groupe des appropriateurs de sexe, on peut se demander, comme je me suis demandé, et en partie aussi avec Daniel et Nicole Laurin, s'il y avait une transformation, un passage de l'appropriation privée de sexe à l'appropriation collective, donc pour les hommes, hein, je simplifie pour que parler plus rapidement, est-ce que il y a un passage vers une appropriation plus collective, un usage sériel et désamalgamé des femmes au sens des membres appropriés de sexe. Et en effet, est-ce que certains hommes n'ont pas tendance à avoir de plus en plus, ben, d'un côté, des relations sexuelles avec des travailleuses ou des travailleurs du sexe, de l'autre côté, une mère porteuse en Ukraine ou en Inde, éventuellement, de l'autre côté, du travail domestique rémunéré, et puis encore de l'autre côté, comme Woody Allen, par exemple, n'importe quoi, des psys. Ça, en tout cas, voilà, réfléchissons. Des psys au sens du travail émotionnel, travail de cœur, etc. Réfléchissons sur, posons-nous la question, je n'ai pas de réponse, mais y a-t-il, en tout cas pour les hommes privilégiés, pour les membres de la classe de sexe appropriateurs, privilégiés par la race et la classe, n'y a-t-il pas en effet une tendance au désamalgamage et à un passage vers une appropriation collective qui serait moins onéreuse ou qui serait plus confortable ? Je ne sais pas, mais ça vaut la peine de réfléchir. Après, quelle conscience de soi possède ce groupe appropriateur de sexe ? Et là, je pense que c'est important de voir que le groupe appropriateur de sexe a les moyens, dans la variété historique, etc., et géographique, culturelle, tout ce que vous voulez, a les moyens d'avoir conscience de son unité et de son de ses intérêts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est devenu appropriateur ou dominant, si vous préférez le mettre comme ça. Là, un exemple pour moi de ça, c'est un article que j'ai écrit, mais qui parle de l'exemple concret, empirique, c'est le service militaire en Turquie qui concerne exclusivement des personnes définies comme mâles, selon les critères turcs contemporains. Et en tout cas, je fais une analyse de ce service militaire comme une institution qui permet aux gens qui passent, qui pourraient être n'importe qui, il se trouve que là, c'est tous des mâles, mais ça pourrait être tous des grands pieds, petits yeux verts, peu importe. En tout cas, ils disposent de cette institution qui leur permet de prendre conscience de leurs intérêts communs versus toutes les personnes qui ne peuvent pas faire le service militaire. Je le dis très très rapidement, mais je pense que c'est une illustration, et il y a beaucoup d'autres institutions qui permettent aux groupes appropriateurs de faire ce que Gramsci dit qui convient au groupe hégémonique, c'est-à-dire de développer, et aussi la contre-hégémonie, mais là on le voit du côté de l'hégémonie, de développer une vision du monde autonome et homogène. Donc par exemple, ils sont ensemble dans des conseils d'administration, dans des armées, dans des églises, dans la haute finance, ils ont à leur service toute l'institution scientifique, je simplifie horriblement, mais vous comprenez je pense ce que je veux dire, et les arts, par exemple, à travers les arts quand même. Si on voit le Festival de Cannes ou les prix Nobel pour l'art et la science, on voit comment des institutions comme ça sont susceptibles de créer une vision du monde homogène dans laquelle ces membres de la classe appropriateur partagent une conscience de leurs intérêts, et notamment, par exemple, je trivialise, mais on voit bien qu'ils partagent une conscience d'un intérêt qui est celui d'étouffer les questions du harcèlement sexuel... Je pense que c'est assez... Et on voit bien comment ils se soutiennent entre eux, même si c'est des gens très différents. On voit bien comment les uns les autres peuvent avoir tendance à s'appuyer pour nier notamment la violence, etc. Les parlements aussi, ça peut être considéré comme des institutions à travers lesquelles... Enfin, je donne tous ces exemples de manière très très rapide, mais je pense que tout ça, c'est pour illustrer le fait que forcément, le groupe appropriateur n'a pas du tout la même conscience de lui-même, les membres individuellement de ce groupe n'ont pas la même conscience d'eux-mêmes, et collectivement, comme groupe, ce groupe a les moyens de donner un contenu, un sens, et un sens qui lui donne, qui renforce son pouvoir, un sens à son propre groupe. Si on le regarde maintenant en termes plus politiques, et aussi historique, donc, ce qu'on peut voir, enfin, on peut réfléchir, on peut se demander ce que signifie le développement des mouvements masculinistes, à l'heure actuelle, en Europe, par exemple, comme une illustration à la fois du travail de construction des intérêts collectifs dans un cadre, peut-être, où il y a de plus en plus d'appropriation collective versus appropriation privée. Tout ça, c'est des pistes de réflexion que je lance. Mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est que les mouvements masculinistes, ils s'attaquent aussi à des questions très, très matérielles, comme dirait Elsa Galrand, par exemple. Ils abordent la procréation et ils s'opposent à l'IVG, par exemple, ou ils obligent à la stérilisation de tel ou tel type de femme, pour des raisons très matérielles, qui sont notamment le contrôle de la quantité globale de force de travail dont ils veulent pouvoir disposer. Comme dirait aussi Elsa Galrand, quand ils luttent contre l'homosexualité, le lesbianisme et tout ça, et quand ils luttent pour défendre l'hétérosexualité, c'est pas seulement d'un point de vue moral ou je sais pas quoi, c'est parce que l'hétérosexualité, politiquement et matériellement, ça veut dire quelque chose, c'est une clé de voûte de leur domination. Donc c'est pour ça que c'est pas simplement qu'ils aiment pas les gays, enfin, voilà. Ou bien quand des mouvements masculinistes, etc., je le dis très rapidement, mais enfin, s'opposent à l'adoption ou à la PMA pour les lesbiennes ou bien pour les femmes célibataires, enfin, tout ça, ça fait partie, c'est quelque chose qui nous montre la construction et la conscience d'intérêts collectifs qui sont des intérêts extrêmement matériels. Ou pareil, quand ils luttent contre les femmes qui luttent contre la violence domestique. Je développe pas là-dessus. Et enfin, parce que j'essaye de réfléchir à la classe appropriatrice de sexe suivant les mêmes quatre axes, hein, je pense que c'est tout à fait intéressant de voir comment cette classe appropriatrice de sexe s'arrange collectivement pour tenter de faire peser le poids de la crise économique sur les femmes. Alors là, je ne vais pas développer parce que je sens que je vais vous égarer, moi aussi je vais m'égarer, mais je pense que c'est quelque chose sur quoi il y aurait énormément à dire et à réfléchir. Mais pour avoir quelques minutes brèves pour parler de la diversité des groupes appropriés et appropriateurs de race maintenant, et là j'inverse l'ordre, Là, on parlait que du sexe. Enfin, on parlait du sexe imbriqué, mais je me concentrais sur les rapports de sexage. Si on commence par le groupe appropriateur de race, je ne sais pas s'il faut l'appeler le groupe des blancs et des blanches ou bien le groupe des racisantes et des racisants, mais en tout cas, voilà, blanc probablement c'est pas un bon terme puisque c'est pas un groupe de couleur, de la même manière que tout à l'heure c'était pas la malité et la fémélité, là c'est pas la couleur de la peau ou la couleur des cheveux ou rien du tout. Je ne veux pas revenir. Voilà, c'est ça. Enfin, et de quelle couleur sont les Irlandaises, les Italiennes et les Juives? De quelle couleur sont les... Voilà, de quelle couleur... Enfin, la goutte de sang, tout ça, c'est pas ça le problème. Donc, on est bien d'accord. Et on est bien d'accord que le groupe des racisants ou racisantes, il est aussi traversé par une très grande diversité, et pas qu'une diversité, il est traversé par des rapports sociaux de classe et de sexe, mais c'est pas pour ça que les racisateurs, racisateurs, ça c'est pas le bon terme, les racisants, c'est ma langue à fourcher, parce qu'ils peuvent être les deux, mais comment dirais-je, c'est pas pour ça qu'ils cessent d'être racisants. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y en a qui sont des femmes qu'elles sont pas racisantes, c'est pas parce qu'il y en a qui sont des prolétaires qui sont pas racisants, des femmes prolétaires, bref. Et encore une fois, pour voir à quel point c'est pas la couleur ou c'est pas et en référence aussi à des choses qui ont été écrites récemment sur les travaux de Guillaumin, oui, il y avait des femmes blanches qui avaient des esclaves, certes, mais c'est pas le problème. Et oui, les femmes blanches ne faisaient pas nécessairement le même usage que les hommes blancs des femmes racisées ou des hommes racisés qui étaient leurs esclaves. Mais il y avait également des femmes noires qui avaient des esclaves, et il y avait également des hommes noirs qui avaient des esclaves et qui trafiquaient des esclaves. C'est pas ça le problème. Enfin, le rapport de race n'est pas défini par la couleur. Il est défini, en tout cas si je m'appuie sur Guillaumin, par l'appropriation. Et justement, je m'étais demandé comment on pensait les prolétaires ruraux ou rurales de la même époque, justement, qui étaient engagés, enfin bref. Mais une femme rurale en Grande-Bretagne au moment de l'esclavage en Jamaïque et tout, eh bien, elle a beau être rurale, elle a beau être une femme, elle met du sucre dans son thé. Sucre produit par les appropriés. Donc elle bénéficie de l'appropriation, même si elle n'a aucun esclave chez elle, etc. Bon. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les petits blancs ou les petites blanches sont, pour réfléchir au problème de la diversité, aux antagonismes qu'il peut y avoir parmi, dans le groupe appropriateur racisant, on peut se demander si les petits blancs, les petites blanches sont plus durs, sont plus racistes que, par exemple, des élites cosmopolites qui, y compris, se marient de manière interraciale, etc. Mais je pense que là, le travail d'une éminente participante du RT24 qui n'est pas là maintenant, Rosemary Joseph, c'est très intéressant. Elle réfléchit sur la manière dont... elle se pose la question, est-ce que les patronnes pauvres sont plus durs avec les travailleuses domestiques, racisées en l'occurrence, que les patronnes riches? Et en fait, elle finit par répondre que c'est pas ça la question. Bon. Donc, voilà. Le groupe racisant, en tout cas, a des privilèges et des bénéfices collectifs. Et en particulier, parmi ces bénéfices collectifs, il y en a plein, et il y a plein de bénéfices matériels, mais il y a aussi des bénéfices idéologiques. Hein, par exemple, le privilège de l'ignorance. L'ignorance heureuse, le solipsisme blanc, comme dirait aussi Adrienne Rich, ou bien le groupe blanc, non, le groupe racisant, appropriateur racisant, jouit de la colonialité du savoir, exerce collectivement une violence épistémique. Et puis, bon, bah, tout ce qui a été rappelé, quand tout le monde sait par cœur ici, avantages matériels, le logement, le travail, la santé, l'éducation, va voir. De différentes manières, mais ce sont quand même des bénéfices matériels très concrets. Si on se demande maintenant quelles sont les évolutions historiques, et là, c'est les questions dont on essayait de discuter ce matin, je ne sais pas très bien, je pense que c'est des questions ouvertes, mais si on prend, comme je pense d'une certaine manière, Colette Guillaumin l'a fait, l'esclavage comme... illustration canonique de certains rapports d'appropriation, l'esclavage colonial de plantation dans un cadre historique justement bien précis, une des questions qu'on peut et qu'on devrait se poser, à laquelle j'ai pas de réponse, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'esclavage est aboli? Encore une fois, je sais que c'est pas aboli d'un seul coup, mais est-ce que, moi je propose l'hypothèse que on passe progressivement d'une appropriation individuel à une appropriation collective. Je pense que ça va dans le sens de ce que dit Balibar, qui a beaucoup repris de Guillaumin sans nécessairement le dire. Je pense que c'est ce que dit Gilroy, Paul Gilroy, quand il parle du racisme sans race, beaucoup plus récemment. Je pense que c'est ce que dit Mouillet Boutan quand, ou bien, je ne sais pas si Sayed dirait ça, mais en tout cas, ou bien Nassima Moujoud, quand elle dit les sans-papiers, c'est la nouvelle race, ou les migrants et les migrantes c'est et les sans-papiers, c'est la nouvelle race, c'est une race sans race. Mais enfin, si la race est éminemment définie par un statut légal, à un moment c'est le statut de l'esclavagisme, et puis à un moment donné c'est le statut migratoire, c'est des questions de citoyenneté en tout cas. Je pense que il faut s'interroger là-dessus, qu'il y a des évolutions, et ça m'amène à la question, au fait que les membres de la race appropriatrice ne sont pas tous et toutes incorporés pleinement dans la citoyenneté. Là aussi, c'est un processus historique progressif. Il y a des avancées, des reculs, mais on voit bien, par exemple, que les femmes blanches, eh ben, elles n'étaient pas citoyennes pleines et entières tout le temps. Peut-être qu'elles étaient moins blanches avant de devenir des citoyennes. Peut-être que la conquête de droits de citoyenneté par les femmes blanches, entre guillemets, qui les blanchit en quelque sorte, pourrait contribuer à expliquer qu'elles soient de plus en plus racistes. Pourrait contribuer à expliquer l'homonationalisme, le fait que les lesbiennes, les LGBTQI, blancs et blanches, entre guillemets, en tout cas de la race appropriatrice, finissent par acquérir une citoyenneté plus complète, qui les range du côté plus blanc, ben c'est peut-être ça qui contribue à expliquer l'homonationalisme, encore une fois. Donc voilà, et je pense qu'il y aurait des questions à se poser autour de ça. Quant à la conscience individuelle et collective de faire partie de cette race appropriatrice, eh ben là, je pense que viennent toutes les questions de la montée du nationalisme, actuellement en Europe et dans beaucoup d'endroits, toutes les questions des restrictions de la citoyenneté, ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que la race appropriatrice est en train d'aller vers une plus grande cohésion. Une cohésion interclasse et intersexe, si on peut dire ça comme ça, interclassiste et intersexuée. Et alors là, la question à 500 euros, est-ce que l'islamophobie serait une faille de la construction de la blancheur? Là, voilà, ben oui, ok, donc il y en a qui sont d'accord. Donc voilà, parce que justement, les personnes assignées à l'islam ne sont pas toutes blanches, enfin, il y a plein d'éléments, en tout cas. Est-ce que l'islamophobie ne serait pas une tentative de resserrer à nouveau le groupe des appropriateurs et tristes de race, qui s'était trop augmenté, qui avait naturalisé des gens, il y avait l'immigration, il y a eu une extension de la citoyenneté, et maintenant, est-ce qu'il ne faut pas réduire le groupe, et est-ce que l'islamophobie, ce n'est pas un moyen de resserrer le groupe appropriateur de race? Et en plus, de réintroduire un élément de durabilité dans la race, parce que les papiers, si les sans-papiers sont une race, les papiers, du jour au lendemain, on peut les perdre ou les avoir, tandis que la religion et l'inscription dans une culture musulmane, disons, ça remet de la longue durée dans la race, ou dans l'exclusion de la race. Bon. Donc voilà, je pense que même si une partie individuelle de la conscience de soi en tant que racisant est un peu ébranlée dans certains cas, dans certains endroits de l'Europe et tout, je pense que surtout il y a une grosse résistance à admettre, c'est-à-dire je pense que les membres du groupe appropriateur de race a conscience de sa position, et par contre a beaucoup de mal à admettre qu'il est dans une position privilégiée. Mais ses agissements, par contre, montrent qu'il a que les membres de ce groupe ont tout à fait conscience de leurs intérêts. Et quant aux appropriés de race, je sais que j'ai déjà dépassé de 3 minutes, mais je me dépêche, les appropriés EES de race, mais peut-être aussi ES, enfin, même sûrement aussi, comme les appropriés de sexe sont divisés par les rapports de classe, par les rapports de sexe, pour le coup. Il y a aussi énormément de nuances, et je pense qu'on ne peut pas analyser les appropriés de race comme on analyse les appropriés de sexe. Mais, donc, il y a cette extrême nuanciation et ce mouvement de fragmentation, mais en même temps, il y a un mouvement d'homogénéisation. Ou en tout cas, il y a des pressions à l'homogénéisation. Et je pense que, par exemple, ça vaudrait la peine de se demander comment le statut de sans-papier, sans-papière homogénéise des racisés qui, voilà, je le dis comme ça, qui sinon seraient extrêmement différents des Irakiens, Irakiennes, des Afghanes, des Érythréennes, et les voilà tous et toutes homogénéisés en quelque sorte, ou en tout cas pressés de se trouver une conscience commune, ou en tout cas placée dans une situation où il et elle peuvent éventuellement se découvrir des intérêts communs. En tout cas, de toute façon, ce n'est pas un groupe naturel. Si on réfléchit maintenant sur les transformations historiques de ce groupe des appropriés de race, alors j'ai déjà posé la question, est-ce qu'on va vers une appropriation collective, une appropriation de race plus collective? Et là, je pense que les femmes prolétaires appropriées de race, c'est-à-dire les appropriées de sexe appropriées de race prolétaires, peut-être dérogent à cette situation, ou en tout cas illustrent, c'est le groupe qui est resté, en même temps qu'il a été poussé dans l'appropriation collective, il est en même temps resté davantage dans l'appropriation individuelle. Traduction concrète. Peut-être que les femmes prolétaires racisées, elles sont repoussées dans les valeurs familialistes, et là je dirais j'appartiens à l'Algérie, ma famille, la nation, etc. Ça, c'est peut-être une position qui en fait correspond, je paraphrase un livre connu que je ne vais pas citer, mais c'est peut-être une position cohérente, entre guillemets, ou en tout cas qui possède une certaine logique pour des personnes qui sont précisément à l'intersection, pour le coup, de l'appropriation de race, de sexe et de l'exploitation de classe. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est une piste de réflexion. Parce que l'appropriation individuelle, et ça a aussi été dit ce matin, quelque part, elle peut apparaître comme un refuge face à des formes de désamalgamage conjugal, au lieu de se faire divorcer de force, ou au lieu de se faire libérer de l'esclavage et de ne pas avoir les carpacres et la mule. Quelquefois, peut-être, on aurait préféré rester dans le mariage plutôt que d'aller travailler au supermarché comme caissière. Enfin, vous voyez, toute cette question-là. Donc, pour pour certaines femmes, se libérer de l'appropriation privée, en se libérant, par exemple, du mariage, c'est une avancée, mais ce ne sont pas n'importe quelle femme ou appropriée de sexe, en termes de classe et en termes de race, pour qui s'échapper vers le salariat, c'est positif. Et ce ne sont pas non plus n'importe quels appropriés de race pour qui s'échapper, comme dit Guillaumin, vers le salariat peut être positif. C'est pas la même chose pour un homme ex-esclave, par exemple, que pour une femme ex-esclave. Et justement, c'est ce qu'on disait, la femme ex-esclave, elle devient travailleuse domestique, et peut-être même pas payée. Alors que peut-être l'homme ex-esclave, peut-être il accède à une position certes pas terrible, mais enfin, néanmoins, il arrive à s'échapper vraiment, entre guillemets, vers le travail salarié, qui était exploité, certes, mais il est passé dans un autre rapport, en quelque sorte, en partie. Voilà. Et alors, quant à la conscience et au projet politique des appropriés de race, là, vraiment, en effet, la conscience individuelle, je pense qu'elle est très morcelée, en tout cas aujourd'hui, dans le monde occidental, par exemple. C'est en effet une position dans laquelle on a peu de moyens, peu d'institutions, peu de structures sur lesquelles s'appuyer pour s'unir, prendre conscience de ses intérêts communs. Le projet politique, du coup, il est assez complexe. Et là, c'est encore ce que dit Guillaumin dans le texte de la Nef, là. Quelque part aussi, le nationalisme, c'est une sorte de piège pour les appropriés de race, dans le sens où le nationalisme, en tout cas, souvent écrase les divisions de classe et écrase les divisions de sexe. En tout cas, le nationalisme, c'est souvent un projet sous hégémonie masculine et bourgeoise. Donc, Est-ce que le nationalisme peut être le projet politique des appropriés de race, ou est-ce qu'il y a d'autres projets politiques des appropriés de race, comme pour les appropriés de sexe, il peut y avoir des projets corporatistes, syndicaux ou politiques? Est-ce que le nationalisme, c'est un projet, je ne sais pas, corporatiste, syndical ou politique des appropriés de race? Je ne sais pas. Ou alors, et là, certaines personnes qui sont à la fois appropriées de race, appropriées de sexe et exploitées de classe, nous montrent un chemin différent, comme mon groupe préféré, le Combahee River Collective, mais il y en a beaucoup d'autres, en tout cas des personnes qui proposent justement une sortie par l'analyse de l'imbrication des rapports sociaux, et qui disent que, en effet, la solution et le projet politique des personnes qui sont non seulement appropriées de race, mais aussi de sexe et exploitées, eh bien, c'est un projet de destruction simultanée de ces trois rapports sociaux. Donc voilà, comme ça je vais m'arrêter. Voilà ce que j'ai réussi à formuler en essayant de penser avec Colette Guillaumin, Nicole Claude Mathieu, Monique Wittig, Danielle Charest, je ne l'ai pas beaucoup mentionné, mais elle est présente en filigrane, Paola Tabet et un certain nombre d'autres, et avec aussi mes collègues du RT et hors du RT. Et ce qui est certain, c'est que, en tout cas pour moi, c'est vraiment évident, Colette Guillaumin, elle n'est vraiment pas en train d'essentialiser, ni de victimiser, ni d'homogénéiser, ni d'avoir une vision statique de la classe des femmes. La place des femmes, c'est pas quelque chose, en tout cas comprise comme ça, je crois, à tes souhaits, je crois pas du tout qu'on puisse dire que c'est aucune de ces choses-là. Je pense qu'il y a énormément de pistes à développer, énormément de recherches empiriques à mener pour nourrir toutes ces réflexions, et vraiment, j'insiste sur la nécessité, à tes souhaits, de penser ces rapports sociaux de manière dialectique, historicisée, en imbrication les uns avec les autres, dans un contexte historique bien précis, en l'occurrence là, peut-être celui du néolibéralisme et de ce qui provoque en termes de réarticulation de l'appropriation collective et individuelle. Et le projet politique, à mon avis, parce qu'une chose, c'est vraiment d'essayer de définir empiriquement qui sont ou quels sont les contours de ces groupes. Mais je pense que l'autre dimension qui est vraiment très intéressante et que quand même très souvent on laisse de côté, c'est l'horizon politique que se donnent les différents groupes. Et il me semble que l'horizon politique le plus intéressant, ça reste l'abolition simultanée de ces rapports sociaux d'appropriation et d'exploitation. Voilà, je vous remercie.
Merci Jules. On va passer immédiatement aux questions, commentaires. Donc je vais passer à tourner les micros. Est-ce que ouais.
Sinon, on fait circuler celui-là.
C'est bon.
Je m'appelle Xavier, je suis du collectif... Je suis du RT24, pardon, excusez-moi.
De quel collectif?
De quel groupe? Donc, c'est pas vraiment des questions pour Jules, c'est un peu des questions pour tout le monde à l'occasion de ce que vient de dire Jules. C'est-à-dire que Jules ne prend pas ça pour des attaques individuelles, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une réflexion qui nous traverse tous, voilà, et toutes. La première, c'est je ne comprends pas la mobilisation des termes qu'on utilise tout le temps quand on fait ce type d'intervention autour de mâle, femelle, blanc, noir. C'est-à-dire je ne les comprends pas au sens où, quand, une fois qu'on a dit que c'est des catégories politiques, qu'il y a une classe des femmes, on n'a plus besoin, à mon sens, de mobiliser le terme femelle comme si restait un résidu inexpliqué. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, il y a eu plusieurs fois où tu as eu besoin d'aller chercher des exemples. Regardez ces blancs-là, c'est bien des blancs, entre guillemets, certes, mais y a comme ça une mobilisation incessante des catégories comme si elles étaient déjà là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je sais pas comment, mais on le fait, c'est pour ça que je te dis, c'est pour tout le monde. La deuxième question, c'est autour de appropriation, exploitation. Bon, depuis ce matin, je boue un petit peu, donc j'ai envie de la poser. Bon, je connais pas tout très bien au niveau théorique, donc je dis peut-être une énorme connerie et je veux bien qu'on m'explique juste. Rabattre le terme appropriation que sur sexe et race et le terme exploitation sur classe me pose problème parce que ça induit une forme de hiérarchisation des rapports. J'ai l'impression, et en particulier de deux points de vue, c'est-à-dire que j'arrive plus à voir l'exploitation dans l'appropriation. Et surtout, côté classe, je pense qu'il y a des rapports d'appropriation aussi qui traversent les rapports de classe et qui ne sont pas des rapports d'appropriation de sexe et de race.
Lesquels ?
C'est là, mais je trouve que c'est problématique, ce vocabulaire distinctif, au moment où on ne veut pas hiérarchiser les rapports sociaux. Ok ? C'est-à-dire, je ne nie pas l'appropriation, je pense que c'est un outil qui doit nous aider à penser les trois, pas en penser que deux, et deux mêmes que l'exploitation. Et la troisième réflexion, tout le temps, je me suis dit en t'écoutant, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est horrible, hein, mais ça c'est un défaut de trajectoire, c'est-à-dire que, bon, défaut de trajectoire de dominant, sans doute, mais aussi défaut de trajectoire lié au truc empirique, c'est-à-dire que, moi je sais pas, en fait je me dis, ok, c'est très bien, en fait, comme tu l'expliques, ça nous permet d'avoir des cadres. Mais après, ces cadres, je me dis, sur le terrain, ils fonctionnent pas bien, parce que, en fait, je suis obligé d'imbriquer les rapports pour rendre compte de ce qui se passe du réel. Oui, mais du coup, comme tu le présentes de manière très didactique en séparant, au moment où je veux l'instrumentaliser, je suis perdu. Voilà ce que je veux dire. Mais je ne dis pas que je suis le seul, c'est pour ça que ce n'est pas contre toi. Voilà.
On prend une deuxième ou... Oui.
Il y avait d'autres questions.
Ici, Claire, il avait quelqu'un.
Oui, bonjour. Oui, je pense qu'il y a des...
Oui.
Non, c'est sûr qu'il y a des choses extra... Oui, je m'appelle Claudie Lesselier. Ça suffit ? Bon. Je pense qu'il y a des éléments tout à fait pertinents et en même temps interpellants dans ce qu'a dit Jules. Mais il me semble y avoir quand même des glissements qui posent problème et puis des contradictions avec des observations empiriques. Un premier glissement, c'est que tu dis à maintes reprises que tu ne poses pas l'homogénéité des classes, enfin des groupes appropriés et appropriateurs, mais quand tu parle des appropriateurs, qu'ils soient de sexe ou de race, entre guillemets, je trouve que tu les montres quand même comme vraiment homogènes, alors qu'il y a quand même des éléments aussi de choix, de pratiques personnelles, d'engagement, de dissidence qu'il faut évoquer et qui sont aussi des moteurs de changement social. De même, quand tu dis que la question du rapport raciste, c'est pas une question de couleur, tu glisses en fait très souvent sur la notion de blanc par rapport à je ne sais qui, enfin les autres ne sont pas nommés, les gens de couleur, je ne sais pas comment tu les appelles dans tes catégories binaires de blanc et autres, mais enfin il est bien évident que le rapport de racisme, y compris allant jusqu'à l'extermination, l'esclavage, la discrimination, la violence, se déroule aussi entre personnes que une vision raciste du monde pourrait rapprocher, par exemple, par leur couleur ou leur physionomie. Ce qui se passe en Afrique des Grands Lacs, ce qui se passe en Afrique du Sud. Enfin, personnellement, pour avoir accompagné des femmes exilées et réfugiées à cause des violences qu'elles ont subies dans ces contextes-là, la les dominations politiques, les dominations économiques sont extrêmement violentes, par exemple à l'intérieur du continent africain. Et il m'a semblé que tu prends comme universel le contexte européen et nord-américain. Mais le monde est bien plus vaste que l'Europe et l'Amérique du Nord, et les formes de violence, voire d'extermination raciste, se déroulent pas seulement à cause de ces deux continents-là. De même, quand tu dis que, effectivement, il y a des femmes qui, entre guillemets, choisiraient de rester dans l'appropriation privée et ne pas se lancer sur le marché du travail. Enfin, la contradiction appropriation privée, appropriation collective, elle est évidemment tout à fait intéressante. Mais je pense que l'opposition entre les femmes qui vivent dans l'appropriation privée et celles qui tentent d'y échapper, au prix évidemment de rester quand même dans l'appropriation collective, ne sépare pas du tout les femmes racisantes et les femmes racisées. On peut trouver dans la bourgeoisie des femmes qui vivent... Enfin voilà, et puis il y a énormément de femmes immigrées, migrantes, bon, racisées ou pas racisées d'ailleurs, qui précisément cherchent à échapper, par exemple si elles vivent une situation de violence dans leur couple, à cette appropriation privée et cherchent à travailler parce que c'est un, même dans des conditions extrêmement difficiles, pénibles, parce que c'est une source d'autonomie. Et cette volonté d'être autonome, elle me semble traverser toutes les femmes, enfin il y a des femmes qui ne le veulent pas ou ne le peuvent pas, mais ça ne me semble pas être du tout, être en parallèle avec la distinction racisant-racisée. Bon, j'aurais aussi des choses à dire sur Colette Guillaumin plus précisément, puisque je la connaissais et que j'ai eu quelques échanges tout à fait intéressants avec elle, mais bon, ce sera peut-être pour après.
Ok. Une dernière question.
Bonjour pour celles et ceux qui n'étaient pas ce matin, Hélène Nicolas, donc anthropologue à Paris 8. Moi, je me pose une question plus... J'en profite pour poser toutes mes questions sur Colette Guillaumin aujourd'hui, mais pas toutes, mais une partie. Pour situer le contexte, j'ai fait une thèse sur le mariage en pays kanak, donc comme forme d'appropriation privée des femmes, le sexage, etc. Le pays kanak, en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, donc une colonie française qui va voter sur son indépendance en novembre. Pour rappel. Dans cette thèse, je me suis posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Et donc, je vais te poser les questions à toi. Quand tu dis le groupe des femmes, un groupe donc approprié dans un rapport de sexage, est-ce que tu veux dire que le sexage, c'est donc une forme sociale d'exploitation, d'appropriation, de domination, d'oppression qui est internationale et qu'on retrouve exactement partout dans le monde? Ou alors, est-ce que tu penses que non, qu'il y a des sociétés dans lesquelles les groupes sexués ne sont pas forcément dans ce rapport de sexage, et dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait définir des groupes qu'on appellerait femmes? Je dis ça par rapport notamment au dernier livre de Nicole Claude Mathieu, Une maison sans fille est une maison morte. Donc ça peut être une vraie question, et une question aussi d'ethnocentrisme, c'est-à-dire que le concept de sexage créé par Colette Guillaumin, il a été créé dans un contexte social, géographique particulier, qui est globalement les sociétés occidentales. Elle prend quelques exemples vaguement dans d'autres sociétés, mais on n'est pas sur une approche comparative, anthropologique, dure, enfin, je veux dire, systématique de toutes les formes de patriarcat ou non qu'on trouve dans le monde, ou en tout cas d'organisation sexuée et sexuelle. Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question, grande question. Deuxième question, c'est sur... attends, je perds ma question un moment. Bon, peut-être que je la dirai tout à l'heure, si ça me revient. C'est comme ça, je ne fais pas trop à la fois.
Alors, j'allais te dire Nicole Claude-Mathieu, et elle l'a écrit avec Martine Gestin, là, Une maison sans fille est une maison morte. En effet, déjà, il y a un truc très intéressant, c'est que les sociétés qu'elle parle, qui sont des sociétés surtout uxories locales et accessoirement, entre guillemets, matrilinéaires, sont beaucoup plus nombreuses hors du monde occidental qu'ailleurs. Et donc, c'est jusqu'à un tiers, et tout particulièrement en Asie, et après aussi beaucoup parmi les sociétés amérindiennes, autochtones, Premières Nations, comme on veut les appeler. Et ce que tu dis, c'est tout à fait exact. Si, et ça rejoint un peu la question de Xavier, si on considère que... le sexage concerne les femelles. Mais si on considère que le sexage, c'est un rapport qui ne concerne aucun groupe sexué, entre guillemets, en particulier, alors on peut se demander si, par exemple, chez les Kavalanes, il peut y avoir du sexage, même s'il ne concerne pas les femmes. Peut-être que c'est ce que nous appellerions péniblement, avec notre vocabulaire réducteur, des hommes, même des mâles, qui font l'objet du sexage et qui sont appropriés par ce que nous appelons ici les femelles. Enfin bref, mais je pense que c'est pas tout à fait ça. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que je pense que l'instrument, le concept, rapports sociaux de sexe, sexage, peut être utilisé dans plein de sociétés différentes et à plein d'époques différentes. Je ne sais pas s'il donnera la même chose, mais on peut l'utiliser. On peut prendre un mètre pour, après peut-être pour mesurer des très grandes distances ou des petites distances, ça marchera pas, mais le mètre reste quand même, malgré tout, ça l'invalide pas complètement, je pense, par exemple. Et aussi, je crois que je l'ai bien dit, mais sinon je le répète, c'est-à-dire, il me semble que... il est à la fois universel et pas universel. Je fais exprès de dire universel, je pense pas exactement ça, mais si le sexage, c'est, par exemple, l'appropriation du corps, des produits du corps, du temps, etc., je pense que ça s'applique dans beaucoup d'endroits, et ça s'applique pour la race et pour le sexe, mais évidemment, pas exactement de la même manière. Ou quand on dit, c'est une des trucs que j'avais proposé dans mon HDR, quand on dit un des éléments de l'appropriation, c'est ce qu'elle appelle le confinement dans l'espace, elle prend comme exemple, en pensant à des sociétés occidentales contemporaines, de sa contemporanéité à elle, elle dit « tu es la reine du foyer », elle dit que les hommes disent aux femmes. Et moi, je propose, pour l'époque néolibérale, pour considérer le phénomène des migrations, que le confinement dans l'espace, c'est aussi les politiques migratoires restrictives. Voilà, dans les deux cas, je pense qu'il y a du sexage, mais c'est pas un sexage universel dans le sens... c'est pourtant du sexage, mais c'est pas le même sexage. Et tout ce que j'ai essayé de dire aussi, peut-être je l'ai pas bien dit, mais c'est ça, c'est-à-dire c'est à la fois généralisé, mais avec plein de modalités différentes. Ça se complique encore plus si on réfléchit vraiment en termes d'imbrication. Alors là, ça se complique énormément plus. Mais voilà, donc ça, c'est la question un petit peu. Je sais que j'ai été très rapide, Claudie. J'ai dépassé déjà de 10 minutes, mais c'était pour que les autres puissent également faire des questions longues. Et si tu veux, et ça rejoint un peu la question de... Mais il est sorti... Voilà. Ok, parfait. Eh ben, en réalité, c'est-à-dire, bien sûr que je m'exprime mal, mais je fais partie de la société comme tout le monde ici, et c'est-à-dire que donc pour moi aussi, la race, elle existe pas, le sexe, il existe, elle n'existe pas. C'est vrai, c'est faux. Donc moi-même, je vois des blancs, des noirs, des arabes, des femmes, des hommes, des trans, des machins, tout ça. Moi aussi, je le vois, je le critique, mais enfin, disons, donc, ça, comme dit Colette Guillemin, je sais bien, mais quand même, ça n'existe pas, mais ça existe. Pour se comprendre, on est obligé de s'y référer, etc. Et j'ai parlé essentiellement, à partir d'exemples français et un petit peu nord-américains, états-uniens, mais j'ai dit au début, et j'ai pas voulu insister là-dessus, mais que moi, pour moi, vu ma socialisation personnelle et politique, disons, pour moi, la race, je la pense beaucoup à partir de l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc pour moi, déjà, c'est pas deux, c'est trois, c'est les blancs, les noirs et les indiens. Puis en fait, les blancs, c'est des blancos mestis, voilà, les blancs, c'est des métis. Donc déjà, ça fiche le boxon. Et puis ensuite, parmi les populations indiennes, alors les noirs, c'est aussi tout un truc, les afrodescendants, afrodescendantes, c'est très compliqué, il y a plein de situations différentes. qui sont en plus très différentes de, des Noirs des États-Unis. La racialisation, chacune est différente et différente, elles sont toutes différentes de celles des États-Unis. Et alors, en plus, les populations indiennes, on disait ça tout à l'heure à midi, ne serait-ce qu'au Mexique, je te prends à témoin, les poulets pechas ont toujours résisté aux Aztèques, les Mayas s'opposaient aux Aztèques et ont fusionné. Enfin, il y a des milliers de choses à dire là-dessus, sur les différences à l'intérieur des groupes ethniques, sans compter les différences entre les populations indiennes et les populations noires, puis les Noirs qui sont indiens en même temps. Enfin, il y a à boire et à manger là-dedans. Ou bien au Guatemala, par exemple, où j'avais été très surprise, c'est vrai, la première fois, j'étais surprise que moi qui voyais toutes les personnes mayas comme toutes indiennes, et il y en a une qui me dit « Ah, mais moi, je suis cachiquel, les quichés, c'est des mangeurs de patates qui sèment les oignons, on les méprise et tout ». Je dis, oh, mais alors, c'est horrible. Mais voilà, ça m'échappe pas qu'il y ait des différences et que c'est pas. Voilà. Et c'est pas les noirs, les blancs, enfin, bref. Et en plus, j'ai dit, Claudie, peut-être tu l'as pas entendu, mais je sais très bien que, voilà, parmi les supposés blancs, ou parmi les supposés noirs, ou parmi les supposés indiens, comme je viens de le dire, il y a énormément de divisions qui vont jusqu'à la guerre ouverte, l'extermination, et ainsi de suite. Donc vraiment, je crois que. Je crois que c'est ça. Et par contre, l'autre chose importante que je voulais dire, c'est que les appropriateurs, et notamment appropriateurs tristes de race, comme les appropriateurs de sexe, ou appropriateurs tristes de sexe, plus que les appropriés, disons le fait même d'être du côté du groupe appropriateur, permet d'avoir plus conscience de, et de créer, plus exactement, plus d'homogénéité. Permet, je ne dis pas que ça le fait toujours, mais je pense que ça permet de créer plus d'homogénéité. Et aussi, il y a des plus gros intérêts à défendre. Donc, je pense que ça aussi, ça contribue à créer de l'homogénéité. Et je ne sais pas si on peut faire ce saut et tout, mais parce que là, en effet, d'un point de vue historique, c'est plus compliqué. On ne voit pas bien les périodes, la périodisation, mais... On voit très bien, par exemple, dans les rapports d'exploitation, on voit très, enfin, ce que moi j'appelle, pour aussi après répondre à Xavier, mais dans ce que j'appelle les rapports d'exploitation, que je considère comme les rapports de classe, etc., on voit bien que la bourgeoisie, justement, elle devient la bourgeoisie parce qu'elle a réussi à se constituer en tant que telle et à définir ses propres intérêts. Voilà. Donc, peut-être, je fais l'hypothèse que peut-être les appropriateurs de sexe ont réussi à un moment donné à se constituer en tant qu'hommes, entre mille guillemets, comme... voilà. Donc, oui, bien sûr que ça change. Je crois que j'ai essayé de dire... je dis des trucs très, très rapides. Ça, c'est sûr, c'est à la hachissime, voilà. Mais bien sûr que ça change. Mais n'empêche que je pense qu'en tout cas, c'est pas la même... conscience de soi individuelle et surtout collective en tant que groupe appropriateur que en tant que groupe approprié. Et je crois que c'était Xavier qui avait posé la question, mais je réponds quand même.
Vas-y. Il est en train de préparer parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Oui, on va devoir continuer. Oui. Ah oui, il a... Ok, très vite, parce qu'on a...
Combien, on s'arrête ou il reste combien?
Bah, on devrait s'arrêter déjà, si tu veux, ouais. Si on veut faire la pause... Si on veut faire la pause...
Une dernière série de questions, parce qu'on a commencé un peu en retard.
On est déjà en retard de retard.
Et on a commencé en retard, donc il y a eu beaucoup moins de débats.
On a commencé en retard.
Ok.
Petite dernière série de questions et je vais être obligée de privilégier ceux qui n'ont pas encore parlé, c'est plus juste.
Oui.
Et Mayra, bro, et je voudrais faire une question par rapport à l'utilisation que tu fais du concept de sexage. Si je ne me trompe pas, Colette Guillaumin, elle ne précise pas si elle propose le concept de sexage pour une période précise, comme par exemple a fait Christine Delphi par rapport à son concept de patriarcat. Bon, elle a fait ça après, mais elle dit qu'elle utilise le concept de patriarcat pour les sociétés de capitalisme avancé, pas exactement ces termes-là, mais dans ce sens. Moi, je me pose la question si en élargissant les concepts de sexage comme tu proposes, on ne perd pas son pouvoir, une partie de son pouvoir explicatif, parce que là c'est très large en fait. Ça, Donc, je voudrais poser une question par rapport à ça. Pour donner un exemple, faire une analogie, à la fin des années 60, il y avait plein de débats sur l'expansion de la catégorie des racismes. Donc, est-ce qu'on pouvait parler de racisme par rapport aux femmes, par rapport à d'autres et est-ce qu'on ne perd pas, par exemple, ça c'était une question à l'époque, si on ne perd pas le pouvoir explicatif du mot racisme si on travaille avec cette notion élargie, bref, Bon, ma question était par rapport au concept sexage, pas par rapport au débat sur le concept de racisme dans les années 60. C'était juste un exemple, parce que peut-être je ne suis pas très claire dans ma question.
Est-ce qu'on en a fini avec les questions ?
Peut-être juste, pour que tu as évoqué très rapidement un point qui me semblait assez important.
Tu peux te présenter, pardon.
Leïla Wittis, je suis proche de la revue Théorie communiste, qui notamment étudie énormément, qui a beaucoup utilisé Colette Guillaumin, Tabet Mathieu sur la question d'une synthèse entre marxisme et rapport de genre pour le TC 23 à 24, et sur la question de l'islamophobie pour le TC 26, pour le dernier numéro. Justement, à ce sujet, tu as très vite esquissé une idée qui, moi, me semble très importante. C'est l'idée que l'islamophobie, conçue non pas comme critique de la religion, mais plutôt comme processus de racisation, comme racisme, voire comme nouvelle forme de racisme, d'un racisme anti-arabe, ça, j'utilise des concepts qu'on développe dans la revue, mais serait un des nouveaux moyens, serait en tout cas à prendre comme un des moyens d'appropriation pour augmenter l'appropriation des femmes en général. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu disais ? Est-ce que tu pourrais reprendre ce point-là, s'il te plaît ?
Je réponds hyper vite, c'est ça ?
Oui.
Par rapport à la question de Mayra, Colette Guillaumin, en effet, à ma connaissance non plus, n'a pas vraiment précisé l'extension, hein, mais comme elle... en tout cas, je pense qu'il y a une extension historique, puisqu'elle dit qu'il y a une contradiction entre l'appropriation et le salariat. Donc, elle, à mon avis, ça veut dire qu'elle pense qu'on peut faire remonter les rapports de sexage un petit peu loin en arrière, jusqu'à avant le salariat, un petit peu d'une certaine manière. Quant à l'extension géographique, on va dire, là, je pense qu'elle ne se prononce pas beaucoup. Est-ce que c'est une erreur d'essayer de l'appliquer en dehors d'un cadre occidental ? Je n'en suis pas sûre. C'est vrai que ce qui est un peu troublant, là, si on va à la réflexion des origines disciplinaires, voilà, elle est sociologue, et Mathieu, par exemple, elle est anthropologue. Mathieu, elle a une culture anthropologique très vaste, qui est tributaire des connaissances de son époque et tout, mais enfin, quand même... Et je pense que, justement, quand elle écrit trois modes de conceptualisation des liens entre sexe, genre, sexualité, c'est une manière de mettre à l'épreuve, en quelque sorte, le concept de sexage, même si c'est une manière indirecte. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'il s'applique de la même manière partout, mais par contre, je pense que c'est intéressant. Et elle, de manière intéressante, elle ne voulait pas établir a priori, peut-être a posteriori, mais pas a priori, de distinction entre des sociétés, par exemple, occidentales et non occidentales. Donc aussi entre des sociétés plus ou moins capitalistes. Voilà, bon, ça mériterait une longue, longue, longue discussion. Et est-ce que, bien sûr, un concept qui gagne en extension, hyper en précision, ça c'est sûr. Et en plus, avec la question de l'imbrication, et si on dénaturalise complètement ce à quoi on applique ces grilles d'analyse, c'est vrai que ça devient compliqué. Et c'est vrai que ça peut générer de la confusion. J'ai pas de réponse arrêtée là-dessus. Et j'ai un horrible trou là. C'est quoi la question qui... Ah oui, voilà, l'islamophobie. Et ben, alors moi, ce que j'ai voulu dire là, j'ai parlé de l'islamophobie comme une manière de restreindre de resserrer le groupe des appropriateurs appropriatrices de race. Après, on peut se demander si c'est aussi une manière de restreindre le groupe appropriateur de sexe, mais je crois, enfin, ça, c'est pas comme ça que je le dirais. Bien sûr que l'islamophobie vise particulièrement des femmes, puisque c'est elles, à travers le voile, dont on considère qu'elles rendent visible leur islamité, ou je sais pas quoi, pour le dire très très vite. Mais moi, ce qui me semble intéressant de peut-être de se demander, c'est si si c'est pas une manière de restreindre le groupe. Je vais encore faire fâcher plusieurs personnes, mais de restreindre le groupe des Blancs, pour le dire de manière très simple, puisque dans les personnes assignées à l'islam ou je sais pas quoi, il y a des personnes qui, sinon, étaient rentrées dans le groupe des appropriateurs de race. Ou qu'elles étaient rentrées, ou elles y étaient toujours, ou je sais pas quoi. Mais en même temps, il y en a qui, d'ailleurs, très opportunément ou pas, d'ailleurs, qui étaient quand même aussi dans le groupe des appropriés de race. Donc, mais en tout cas, encore une fois, je redis, je l'ai dit pas forcément de manière suffisamment claire, mais si la race... si vous voulez, j'arrête, hein, puisque je l'ai déjà dit.
C'est le contraire.
Alors, eh bien, parce que si...
Oui, c'est ça.
Si la race a changé dans le sens où si on est passé vers plus d'appropriation collective, si l'appropriation collective c'est lié à la migration et au statut migratoire, et notamment à la légalité, l'illégalité, la citoyenneté, machin, le groupe s'est augmenté. Il s'augmente au fur et à mesure, assez. C'est difficile et tout d'obtenir des papiers, mais c'est quand même assez facile, et en tout cas c'est un truc qui est du jour au lendemain. D'un jour vous avez des papiers, un jour vous n'en avez plus, mais bon. Donc il y a une espèce de logique... où la race devient d'un côté ou de l'autre, du côté racisant ou racisé, où la race devient un truc immédiat, sans historicité, sans ethnicité, alors que l'islamophobie, l'islam en général, la religion, elle remet, entre guillemets, si vous voulez, de l'ethnicité, ou elle remet de la profondeur historique. Parce que, bien sûr, il y a des gens qui se convertissent, et là, c'est du jour au lendemain, mais de manière générale, on se comprend, hein, mais
c'est parce que le racisme est devenu un racisme culturaliste qu'il peut s'étendre à des groupes qui ne sont pas définis par la traditionnelle vision du racisme biologique.
Tout à fait.
Et là-dessus, avec les Humains et quelques autres à la même époque, autrement des années 70-80, à la fin de...
Mais là, ce que je dis, c'est voilà, et tout à fait. Mais je veux dire, parmi les racisants, où s'étaient glissées, entre guillemets, des personnes qu'on peut faire sortir du groupe racisant par l'islamophobie. Mais, je parle de la France aujourd'hui.
Est-ce qu'on décide là parce que...
Oui, on va arrêter, on continue tout à l'heure.
C'est plus possible, désolée.